France Inter.
Et bonjour à tous. Mardi prochain débutera la 77e édition du Festival du film de Cannes. Un festival désormais présidé par une femme et dont la présidente du jury sera la réalisatrice du film Barbie cette année. C'est donc un tournant pour le festival qui pendant longtemps n'a pas donné, c'est vrai, une grande visibilité aux femmes, que ce soit dans les palmarès ou dans l'organisation. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
En plein MeToo du cinéma, vous vous êtes donc penché sur son histoire, l'histoire du festival. Et sur la place qu'il a accordée aux femmes, et vous allez donc nous raconter ce que vous avez découvert.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
Il y a un ex aequo, le piano de Jane Campion.
Chère Agnès, je suis très très émue de te remettre une palme d'honneur.
The Palm d'Or.
La palme d'or. Et décerné à Titane.
The Palme d'Or goes to Justine Triet.
Voilà, trois palmes d'or et une d'honneur, quatre annonces extraites de quatre cérémonies de clôture du Festival de Cannes. Alors on pourrait se dire qu'il ne s'agit que de quelques exemples parmi d'autres, sauf que non. Tout est là, en fait. En 76 éditions du festival, seules trois palmes d'or ont été décernées à des femmes. La première, Philippe Reltien, c'était à Jane Campion en 1993. Mais à l'époque, vous l'avez entendu, ce n'est pas une palme d'or unique, en fait, qui lui est décernée. Elle doit la partager avec un autre réalisateur.
Oui, ils sont ex aequo et du coup, l'événement sera en demi-teinte. D'un côté, on célèbre donc la première palme d'or décernée à une réalisatrice, mais de l'autre, certains s'étonnent qu'il ne s'agisse que d'une demi-récompense, en quelque sorte, attribuée en même temps au réalisateur chinois Chen Kaige.
Et lorsque Jane Campion revient au festival, beaucoup plus tard, elle se souvient apparemment de cet épisode.
Oui, elle revient comme présidente du jury cette fois, elle prend alors la parole et elle dit clairement ce qu'elle pense de cette sous-représentation des femmes, en faisant référence à ce que lui a dit le délégué général du festival. Ses propos ont été traduits en français.
Thierry Frémaux nous a dit que seulement 7% des films sur les 1800 films qui ont été soumis au festival pour la sélection, seulement 7% d'entre eux sont réalisés par des femmes. Mais quoi qu'il en soit, il semble que ce n'est vraiment pas démocratique tout cela. Et les femmes ne sont pas assez représentées dans cette profession. Excusez-moi, messieurs, mais c'est vous qui vous prenez la grosse part du gâteau.
Voilà, ça c'était en 2014 et elle aurait fait d'ailleurs à cette occasion, Philippe, une proposition plutôt iconoclaste.
Oui, alors ça c'est Mathilde Blottière qui dirige les enquêtes sur le cinéma à Télérama qui me l'a raconté. Voilà selon elle ce que Jane Campion aurait suggéré.
Elle propose à Frémaux à l'époque de constituer un jury exclusivement féminin en disant ça changera parce que finalement, nous, c'est notre lot commun, les réalisatrices, on a toujours l'habitude d'être jugées par des jurys quasi exclusivement masculins, donc ça pourrait être une expérience intéressante. Frémaux ne donnera pas suite, il ne répondra même pas, donc je pense que la proposition ne l'a pas intéressé. Et finalement, tout le monde s'interrogeait à l'époque en se disant « mais Jane Campion, ça va forcément être une réalisatrice récompensée palmée, et non, ce sera Wintersleep de Nourébich Ceylan ». Donc, ce qui prouve bien que, évidemment, c'est pas de l'arithmétique, je veux dire, c'est pas genré au point de penser qu'une femme présidente du jury va récompenser une femme.
Et puis, précision importante, Philippe, quand même, Thierry Frémaux lui affirme qu'on ne lui a pas fait cette proposition. Donc là, il y a des avis qui divergent. Quoi qu'il en soit, l'année qui suit, en 2015, donc, un nouveau pas est fait et une nouvelle palme prestigieuse est attribuée à une femme.
Oui, cette fois à la réalisatrice française Agnès Varda, mais c'est une palme d'honneur qui lui est décernée pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc une palme hors concours, en quelque sorte. Et dans son discours de remerciement, la Française se montre beaucoup plus consensuelle que sa collègue néo-zélandaise.
Cette palme, je ne la prends pas à personne puisqu'il n'y a pas de compétition. Mais je la reçois comme une palme de résistance et d'endurance. Je la dédie à tous les cinéastes inventifs et courageux qui ne sont pas en lumière et qui continuent.
Et qui continue, mais en attendant, on est en 2015 donc, et aucune femme n'a encore reçu de palme d'or unique.
C'est ça. Et d'ailleurs, si la palme d'Agnès Varda est saluée, elle est aussi relativisée par certains qui se demandent pourquoi on a attendu si longtemps pour la récompenser. Et parmi eux, il y a le critique cinéma de Libération, Gérard Lefort.
Il était temps. Après qu'elle ait fait 2500 films, on lui a donné... Et voilà, oui, c'était une espèce de récompense, peut-être teintée de culpabilité. Voilà. Donc là aussi, quand Varda, à cette page, je suis content, je l'appelle, bravo, formidable et tout ça, et elle me répond, bah oui, un peu tard. Mais Cannes, c'était important pour elle, parce que voilà, c'était le festival qui avait primé la Nouvelle Vague aussi.
Oui, en fait, il faudra attendre 2021 pour que les choses changent vraiment.
Oui, c'est cette année-là, donc très récemment, qu'est enfin récompensée une femme avec une palme unique. Ce sera Julia Ducournau avec Titane. Puis Justine Triet en 2023 avec Anatomie d'une chute. Il aura donc fallu attendre 75 ans pour qu'une réalisatrice trouve toute sa place au sein du festival.
Et comment le délégué général du festival, Thierry Frémaux, explique ça ?
Eh bien, lui a toujours répondu que Cannes n'était que le reflet de l'état du cinéma dans le monde. Une forme de miroir en quelque sorte. Et que, comme il y a eu très peu de femmes réalisatrices pendant très longtemps, bien forcément, il y a eu très peu de récompenses féminines. Écoutez ce qu'il disait à ce sujet en mai 2023 sur le plateau de la chaîne Figaro Télé.
On est au bout de la chaîne. Si le cinéma, et en effet, voit de plus en plus de réalisatrices arriver en pleine possession de leurs moyens et de leur puissance, on n'y est pour rien. Quand ça n'était pas le cas, on n'y était pour rien non plus.
Et il est vrai que jusqu'à il y a peu, Philippe, non seulement peu de femmes tournaient des films, mais la question de leur place derrière la caméra, en fait, ne se posait quasiment même pas.
Effectivement, et ça j'ai pu le mesurer en discutant avec Jérôme Paillard, l'ex-président du marché du film à Cannes. Écoutez ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai interrogé là-dessus.
On ne s'est jamais réellement posé la question... Par exemple, on publiait pas mal de statistiques sur les films. On n'a pas sorti des statistiques sur le nombre de films de femmes ou d'hommes parce que il n'y avait pas de demande. Les distributeurs n'étaient pas du tout dans une demande de dire « Tiens, j'ai besoin d'un film de femme ». C'est jamais quelque chose qu'on nous a demandé.
Mais alors, c'est quoi les chiffres, précisément ?
Et bien sûr, 77 éditions du festival, 97 films de femmes ont été sélectionnés pour la Palme d'Or, contre plus de 2000 qui ont été réalisés par des hommes.
Ouais, ce qui fait environ 1 sur 20, c'est pas beaucoup, effectivement. Mais aujourd'hui, le nombre de réalisatrices a augmenté, non ?
Alors oui, ça c'est vrai. Les choses ont quand même bougé ces dernières années, mais les femmes restent minoritaires. Écoutez ce que m'a encore dit à ce sujet Mathilde Blottière du magazine Télérama.
Aujourd'hui, il y a 27% de réalisatrices dans notre pays et la part de fiction qui est réalisée par des femmes progresse, mais lentement et de façon encore bien trop lente, avec un accès très inéquitable, notamment au budget des films. C'est-à-dire qu'en moyenne, les réalisatrices ont 2,5 millions de budget, grosso modo, quand les hommes ont accès à un peu plus de 5 millions.
Ah oui, donc on est encore loin du compte.
Oui, avec des budgets inférieurs de 25% à ceux des hommes. Il y a clairement un gros écart. Mais Cécile Lacoux, qui est directrice des études au CNC, le Centre National du Cinéma, et de l'Observatoire de la Parité, veut tout de même y voir une progression.
25%, évidemment, c'est beaucoup. Mais il y a 20 ans, on était à 40% d'écart. Donc là aussi, on a quand même des avancées, même si elles sont insuffisantes à date.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors dépassons les chiffres, Philippe Reltien, pour voir plus généralement quel regard a porté le Festival de Cannes sur la condition féminine, parce que plusieurs des réalisateurs ou des acteurs qui sont mis en cause aujourd'hui dans des affaires de violences faites aux femmes ont été un temps célébrés à Cannes.
Oui, alors c'est vrai, le Festival a primé 3 fois Jacques Doyon, ou a fait présider son jury par Gérard Depardieu en 1992, Mais à cette époque, aucune des accusations qui les mettent en cause aujourd'hui n'était connue du public et on ne voyait en eux que les grands réalisateurs ou acteurs qu'ils étaient, du reste.
Ouais, donc la question ne se posait pas. En revanche, le cas de Bernardo Bertolucci, lui, est un peu plus discutable.
En effet, lui reçoit une Palme d'Or en 2011, alors qu'on sait depuis longtemps comment Maria Schneider, à 19 ans, a été piégée par le réalisateur italien avec la complicité de Marlon Brando lors du tournage d'une scène de sodomie pour le dernier tango à Paris. Ce film brisera la réputation de Maria Schneider qui sombrera ensuite dans la drogue.
Et malgré ça, donc, Bertolucci est honoré par le festival.
Oui, et sous les applaudissements, comme si Maria Schneider avait été oubliée alors qu'elle est décédée 2 mois auparavant. Cette année, le festival va projeter, en marge de la compétition, un film consacré à sa vie. Mais à l'époque, personne ne semble choqué, ce qui reste inconcevable pour Mathilde Blottière.
Cette scène de sexe est considérée comme quasiment le crime est à l'écran parce qu'on sait que cette scène a été, sinon un viol, du moins vraiment une embuscade, c'est-à-dire tournée sans que Maria Schneider ne sache qu'elle allait être tournée comme ça, avec cette brutalité-là, et quasiment par surprise. Donc là, effectivement, on a vraiment le parangon du regard masculin la complicité en plus entre Brando et Bertolucci. Et lorsque Bertolucci reçoit une palme d'honneur donc pour toute sa carrière, Maria Schneider est décédée 2 mois plus tôt, et il n'a pas un mot pour elle, pour lui rendre hommage. Et là encore, ça passe crème, si j'ose dire.
Ouais, crème, jolie formule, pour une histoire qui, elle, ne l'est pas du tout. Mais 2 ans plus tard, en 2013, un film privé à Cannes va, lui, provoquer une polémique.
Oui, ce film, c'est La vie d'Adèle, qui met en scène 2 jeunes femmes, incarnées par Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Elles évoqueront des conditions de tournage très éprouvantes, des scènes de sexe explicites difficiles à tourner, un nombre de prises incalculables. Bref, la dimension potentiellement tyrannique du réalisateur commence à être questionnée, comme le relève le producteur de cinéma Marc Missonnier.
Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux se sont exprimés sur les conditions dans lesquelles le film La vie d'Adèle a été tourné et se sont exprimés sur le fait que c'était extrêmement difficile de travailler avec Adèle Atif-Keshif. Mais à l'époque, finalement, on considérait que l'œuvre était plus importante que finalement les conditions dans lesquelles cette œuvre était créée. Aujourd'hui, on est sans doute beaucoup plus attentif aux conditions dans lesquelles les œuvres ont été créées.
Ouais, aux conditions et aussi au profil des réalisateurs.
Oui, et on va mesurer cette évolution à travers plusieurs incidents ou même des traits d'humour qui seront lancés au public. Écoutez par exemple ce que le comédien Laurent Lafitte, alors maître de cérémonie d'ouverture du festival en 2016, dit devant l'assistance lorsqu'il s'adresse à Woody Allen.
Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis.
Alors c'est une référence indirecte aux accusations dont il fait l'objet, mais aussi une allusion à Roman Polanski. La question du comportement du réalisateur commence donc à devenir centrale. Plus question de distinguer l'œuvre de son auteur. Roman Polanski n'appréciera d'ailleurs pas du tout cette allusion. Et il le dira peu après à Anne Sinclair au micro d'Europe 1.
Je pense qu'elle était minable. Pas seulement vis-à-vis de moi, mais surtout
vis-à-vis de Woody Allen,
Qui était invité, dont le film était présenté
à l'ouverture.
Oui. Je pense que c'était d'extrêmement mauvais goût.
Ouais, chacun se fera son opinion. Maintenant, en attendant, ce qu'on constate, Philippe, c'est que le regard de la société est bien en train de changer.
Oui, et on l'a vu encore pas plus tard que l'an dernier, lorsque Johnny Depp vient à Cannes présenter Jeanne du Barry, film dans lequel il partage le rôle principal avec Mai Wen. Il sort à peine d'un procès retentissant qui a étalé publiquement des épisodes de violence conjugale assez choquants. Lui dérouler le tapis rouge alors que le mouvement MeToo a fait évoluer les esprits ouvre donc un débat. Écoutez à ce sujet Antoine Pecker, qui observe ce mouvement dans le milieu de la musique pour la chaîne Mezzo notamment. Lui a été surpris par les explications données par le délégué général du festival.
Thierry Frémaux, l'année dernière, au Festival de Cannes, au moment où on l'interroge sur la sélection du film avec Johnny Depp, Thierry Frémaux qu'on interpelle, c'est nos confrères de France 5 qui le font, et à ce moment-là, il a une seule réponse, Thierry Frémaux, je m'en fous.
Je m'en fous, il a vraiment dit ça ?
Eh bien, le mieux pour le savoir, c'est d'écouter précisément ce qu'il a dit. Je vous propose donc de réentendre ses propos ce soir-là sur France 5, aux côtés de Laure Adler.
on a décidé de montrer le film pour sa qualité propre. S'il y a quelqu'un au monde qui s'est pas du tout intéressé à ce procès qu'il a opposé à son ex-femme, c'est moi, donc j'étais pas du tout au courant de tout ça. Non, c'est vrai, je suis un des rares types sur cette pièce.
Vous ne lisez pas les journaux.
Pas l'impression, je lis très peu les journaux.
Vous avez fait la une de tous les, de toutes voilà. les télévisions du monde entier, Thierry. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant.
Non, je n'étais pas au courant.
Bon, vous n'étiez pas au courant.
Non, enfin, j'étais au courant comme ça, quoi. Mais je m'en fous un peu.
Ouais, je m'en fous un peu. Bon, là encore, chacun se fera son idée. Maintenant, on est là, vraiment au cœur du débat qui agite aujourd'hui le milieu du cinéma.
Oui, encore une fois, vous avez les tenants de l'œuvre en tant que telle et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas la dissocier de son auteur et de ses acteurs. D'un côté, certains disent donc « on n'aurait jamais dû inviter Johnny Depp compte tenu de ce qu'il incarne désormais ». Et d'autres, comme le délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui considèrent que seul compte l'œuvre, le film. Et la loi aussi, qui est à ses yeux la seule à pouvoir limiter sa liberté.
Moi, j'ai une seule conduite dans la vie, hein. C'est la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté d'agir dans le cadre de la loi. Si Johnny Depp, il lui avait été interdit de jouer dans un film, et si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas en train d'en parler.
France Inter, secret d'info.
Bien, alors on va s'intéresser maintenant à ce qui s'est aussi passé en marge du festival. Là, on ne parle plus de l'organisation, on parle des à côté du festival, Philippe Reltien. Parce que plusieurs de vos interlocuteurs vous ont décrit Cannes, la ville de Cannes, au mois de mai, comme, je cite, un lieu de prédation.
Oui, ou en tout cas un lieu où l'on se permet des choses qu'on ne s'autoriserait pas le reste de l'année. Écoutez par exemple ce que m'a dit Gérard Lefort, le critique cinéma de Libération. Il nous décrit l'ambiance qui règne alors dans la ville.
C'est une crise de nerfs qui dure une dizaine de jours, le festival de Cannes. Donc c'est crise de nerfs à tout point de vue et crise sexuelle aussi. Alors il y a un truc très simple à faire quand vous allez à Cannes, vous allez vous balader sur la Croisette l'après-midi, donc stupeur, vous voyez des dames très belles en robe longue à 3h de l'après-midi, des messieurs très jolis en smoking, toujours à 3h de l'après-midi en plein soleil et en canicule. Et en fait, il y a comme une espèce de message subliminal, on a l'impression qu'ils disent tous « prenez-moi, invitez-moi, emmenez-moi dans une fête » et plus, c'est affinité. Je trouve qu'il y a un fond un peu pornographique au Festival de Cannes qui est patent.
Qui est patent et qui est, ou qui était, en tout cas, aussi alimenté par des fêtes.
Oui, alors attention, c'est très différent aujourd'hui, mais c'est vrai, ça a culminé dans les années 2000, lorsque les alcooliers finançaient de grands défoulements collectifs. À l'époque, la nuit cannoise est une succession d'événements dans lesquels circulent champagne, vodka et drogue. Viendront ensuite les fêtes Canal+. Mais écoutez plutôt à ce sujet Cédric Couvet, un des DJ les plus connus du festival.
Il faut imaginer le Festival de Cannes d'un point de vue festif, un peu comme dans un jeu vidéo. Vous avez plusieurs niveaux. Quand vous commencez, vous êtes au niveau 1. Bah là, grosso modo, vous allez là où on vous accepte, vous êtes content, vous mettez une robe à paillettes ou en smoking de location, et puis vous voyez ce qui se passe. Ensuite, bim, on grimpe les échelons. Il y a les fêtes qui sont vraiment les fêtes du milieu, les fêtes branchées, où là, l'accès est quand même très compliqué parce qu'il faut montrer patte blanche, il faut connaître, c'est un petit peu cette chasse au carton d'invitation. Et puis ensuite, il y a tout le off, on va dire, de Cannes, où là, pour le coup, très très peu de gens y ont accès, puisque de toute façon, là, on est vraiment sur des réceptions totalement privées. Et donc là, ça se faisait effectivement sur des yachts, ça se faisait dans des villas. Là, c'était vraiment des gens qui louaient une villa pour faire la fête.
Et dans certaines de ces fêtes, avant 2017, on retrouvait un certain Harvey Weinstein.
Oui, le patron de Miramax, puis de la Weinstein Company, qui fait alors la pluie et le beau temps dans le milieu du cinéma. Lui ne boit pas et ne fume pas, mais il écume les fêtes. Gérard Lefort, le critique cinéma de Libération, se souvient d'ailleurs de l'avoir vu sur un parking pendant une nuit.
Il est un fait que j'ai vu une fête, je ne sais plus laquelle, Weinstein, je ne sais pas qui c'était, mais très arrogant, donc on se doutait qu'il était très important. Et je l'ai vu effectivement plaquer à un mur Marion Cotillard. Et Marion Cotillard en question, qui avait déjà beaucoup de caractère à l'époque, l'a repoussé vivement, très vivement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que... Mais comment ose-t-il ?
Et pourquoi pourquoi ? Pourquoi il se permet ça, Philippe ?
Eh bien, il ose parce qu'il se sent tout permis. Il a obtenu une Palme d'Or avec Pulp Fiction en 1994, puis il a décroché 5 Oscars en 2012 avec le film français The Artist. Et dans la foulée, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lui remet la Légion d'honneur. Et selon son chauffeur de l'époque, Michael Chemloul, cela expliquerait en grande partie son comportement.
On l'a porté au nu avec cette rosette affichée sur son revers de veston. Quand il arrive au Majestic, tout le monde est en rondognon, applaudissements, courbettes. On enchaîne, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je suis le roi du monde. Donc la France m'appartient, quoi, quelque part. Donc je fais ce que je veux ici.
Et effectivement, il fait ce qu'il veut.
Oui, et notamment sur l'Odessa, le yacht du patron de la Warner Music, Len Blavatnik, comme le raconte encore Michael Chemloul.
Len Blavatnik, c'est un oligarque russe qui vit aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Et c'était l'ami intime de Harvey Weinstein. Il y avait l'Odessa 1, l'Odessa 2, il en avait 3 ou 4 hein, des yachts. Hein. C'était pas des petits yachts, c'était des méga yachts sophistiqués. Hein. Ça partait d'un port à un autre, ou d'un quai du Carlton ou de celui de l'Eden Rock pour aller à Saint-Jean-Cap-Ferrat où il y avait son hôtel privé qui s'appelait le Grand Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Et Harvey Weinstein va donc d'un ponton à l'autre, sauf qu'une nuit, son chauffeur ne va plus supporter son comportement.
Non, et cette nuit-là, se souvient le chauffeur, Harvey Weinstein ne revient pas seul du yacht. Il est alors accompagné par une jeune femme.
On sort d'une soirée qui était au large de la baie de Cannes. Donc il installe sa future proie à l'arrière du véhicule. Je sens des gémissements, je sens une fille qui était forcée derrière. J'ai donné un coup de frein en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là ? Tu me fais pas ça ?» Il me dit « Ok, fuck you, keep driving. » Au lieu d'aller à l'hôtel du Cap, je me suis trompé de chemin, j'allais à l'Eden Rock, où sa femme, Georgina Chapman, était enceinte de 6 mois. Et là-dessus, il me fait un scandale, il me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Reviens à l'hôtel du Cap, c'est à l'hôtel du Cap qu'on va. » En fait, à l'hôtel du Cap, je vois le concierge qui lui remet une clé de sa garçonnière, et il fait son affaire. Pendant ce temps-là, j'attendais dans le véhicule, je reçois un coup de fil de Georgina Chapman à 5h du matin, qui me dit « Où il est mon mari ?»
Ce qui est fou dans cette affaire, Philippe, c'est que le comportement de Weinstein, il avait été dénoncé en France et bien avant que la justice américaine s'intéresse à lui.
Oui, d'abord en 1994, Judith Godrèche signale à la direction de Miramax des gestes déplacés qu'il aurait eus à son égard dans sa suite du Majestic. Mais rien ne se passe. Et puis, 10 ans plus tard, en 2014, le chauffeur de Weinstein, lui, porte plainte au commissariat de Cannes. Il raconte que sur la route entre Saint-Tropez et Ramatuelle, Weinstein l'aurait frappé parce qu'il avait raté un rendez-vous avec 2 call girls. Le producteur américain l'aurait alors menacé de le faire disparaître par la mafia.
Et donc ?
Eh bien, le 20 mai 2014, la commissaire de Cannes contacte le procureur de Grasse qui lui répond que si ça s'est passé dans le Var, c'est à Fréjus de gérer et pas à lui. Et la plainte sera finalement classée sans suite, faute de témoins et de suspects aussi, puisque Weinstein est reparti aux États-Unis.
Et la suite, on la connaît.
Oui, le chauffeur sera mis à l'écart, tandis que Weinstein continuera de faire des victimes, jusqu'au fameux article du New York Times en octobre 2017. Et la justice le condamnera ensuite à 16 ans de prison.
Ouais, le New York Times qui révélera donc son comportement. Et dès mai 2018, donc juste après ces révélations, le Festival de Cannes va lui s'emparer de l'affaire.
Oui, Cannes se met alors au diapason de la chute de Weinstein. Et la réalisatrice et actrice italienne Asia Argento s'adresse au public en ouverture du festival.
In 1997,
I
was raped by Harvey Weinstein.
J'ai été violée par Harvey Weinstein ici, même à Cannes.
I was 21 years old.
J'avais 21 ans.
This festival was his hunting ground.
Était sa chasse gardée.
That once embraced,
toute une communauté lui a tourné le dos. Et parmi
vous,
dans le public, il y a ceux à qui on devrait pointer le doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie, indigne de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Plus important encore, nous savons qui vous êtes. Et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité.
Voilà un discours prémonitoire, puisque durant les années qui suivront, effectivement, plusieurs acteurs et réalisateurs vont tomber de leur piédestal.
Oui, et Cannes est une nouvelle fois en prise avec ce paradoxe. D'un côté, la ville a été le lieu où certains faits dénoncés aujourd'hui se sont produits, l'endroit où on a fermé les yeux, mais il est aussi celui où l'on a réagi aux événements, en invitant donc notamment Asia Argento. Écoutez ce qu'en dit le journaliste Xavier Monnier, qui a notamment écrit le livre « Cannes confidentiel ».
Thierry Frémaux, il a cette intelligence politique de l'inviter au festival pour qu'elle parle à la tribune, à la cérémonie d'ouverture. Et Thierry Frémaux me l'a raconté après, évidemment que j'ai eu des coups de fil après, mais c'était un bon coup pour mettre les pieds dans le plat et dire « Regardez le Festival de Cannes, on évolue, etc. »
Et jusqu'où ira cette évolution? Le festival va-t-il changer? Et si oui, comment? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir, mais dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette émission. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin, Florida. Came with my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle on. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. All my girls got their lace and their crimes, and your cheating husband disappeared. Well, no one asks any questions here. So I did my best to lay to rest bodies that have ever been on my body, and in my mind they sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know you're 100, only the time you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas. Florida, forget, so take me to Florida. I've got some regrets, I'll bury them in Florida. Tell me I'm despicable, say it's unforgivable. At least the dolls are beautiful, we are Florida. I need to forget, so take me to Florida. I've got some regrets, I'll bury them in Florida. Tell me I'm despicable, say it's unforgivable. What a crash, what a rush, we are Florida. A guest in, so you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin. Little did you know your home's really only the town you'll get arrested in. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas, Florida. Can I use you? Florida, cet extrait du dernier album de la chanteuse américaine Taylor Swift, et c'est très beau, vous l'avez entendu, et pour ceux d'ailleurs qui en entendent parler de Taylor Swift dans les infos, mais qui ne l'ont pas entendu encore chanter, eh bien la diva se produira encore ce soir et demain à la Défense Arena à Paris. Cela dit, je vous le dis, mais c'est pas la peine de chercher des places, puisque c'est archi complet.
France Inter, secret d'info. Jacques Monin.
Et retour au Festival de Cannes, vu à travers le prisme de la condition féminine. On a vu qu'il a fallu beaucoup de temps pour couronner des femmes réalisatrices dans la première partie de cette émission, Philippe Reltien. Mais ça a quand même évolué ces dernières années.
Oui, alors il y a eu trois infléchissements. D'abord, on a tout récemment décerné deux palmes d'or à Julia Ducournau et Justine Triet, comme si on voulait inverser le balancier. Ensuite, c'est Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie, qui va présider le jury la semaine prochaine. Enfin, c'est une femme qui a pris la présidence du festival, Iris Knobloch. Elle a succédé à Pierre Lescure, et c'est la première fois qu'une femme est à la tête de l'organisation.
Et c'est qui, Iris Knobloch ?
C'est une femme d'affaires d'origine allemande qui a occupé un nombre assez important de fonctions de direction. Écoutez le portrait que nous en dresse Alexandre Berthaud du quotidien d'information en ligne La Lettre.
C'est à l'origine une avocate de formation, elle a grandi à Munich, elle a très vite rejoint le groupe Warner, donc où elle passe 25 ans à différents postes de direction entre New York, Los Angeles et puis la France, où elle arrive en 2008. Dans son profil, c'est vraiment une femme d'influence, donc elle est administratrice de la banque Lazard à New York. On la retrouve aussi au conseil d'administration du géant de l'hôtellerie Accor, aux côtés d'un certain Nicolas Sarkozy, dont elle est assez proche d'ailleurs, il lui a remis la Légion d'honneur dès 2008. On l'a aussi retrouvée au board de LVMH entre 2019 et 2021. Alors là, pour la petite histoire, elle a dû un peu en urgence quitter ce siège d'administratrice puisqu'elle a lancé un véhicule d'investissement avec la famille Pinault, François Pinault, le frère ennemi de Bernard Arnault dans le luxe. C'est une femme qui a un réseau évident dans le monde des affaires.
Et un réseau assez impressionnant.
Oui, on peut encore ajouter qu'elle administre un complexe hôtelier de ski dans le Colorado, la société BMW, qui est un des sponsors du festival. Elle figure aussi au conseil d'administration du groupe de luxe Kering, autre sponsor du festival. Elle est encore gouverneure du prestigieux hôpital américain de Neuilly et elle préside la plateforme musicale Deezer.
Ouais, ça donne un petit peu le tournis. Maintenant, pour revenir à notre sujet, Philippe, elle a pris des engagements.
Oui, à Cannes, elle a clairement fait part de son intention de renforcer c'est la part des femmes dans la sélection. Voilà ce qu'elle dit précisément sur le site du festival.
La sélection, c'est toujours une forme de cartographie de l'état de l'industrie cinématographique à ce moment. Et c'est vraiment notre travail de faire émerger encore plus de talents féminins pour que chaque année, ce pourcentage augmente.
Donc ça, c'est son engagement. Maintenant, les choses ne seront peut-être pas aussi simples que ça.
C'est vrai que certains sont assez sceptiques sur ses marges de manœuvre. C'est le cas notamment de Pascal Rogard, qui a représenté la Société des auteurs et compositeurs dramatiques au conseil d'administration du festival.
Je ne suis pas sûr qu'elle ait une influence énorme sur la sélection. La sélection, le choix des films, c'est Thierry Frémaux. C'est lui qui est entièrement responsable de cette sélection. Et je ne pense pas que Iris Knobloch impose des choix. D'ailleurs, si elle imposait des choix, il y aurait plus de femmes.
Ah, et puis la question se pose aussi pour ce qui est de la composition du conseil d'administration du festival.
Oui, et là aussi, il y a débat, puisqu'il est encore aux deux tiers masculins. Alors, il y a bien eu une tentative de changer les choses en janvier 2021, mais ça n'a pas abouti.
Il y a eu des propositions pour que le conseil d'administration soit paritaire et ces propositions n'ont pas été acceptées, elles n'ont pas fonctionné. Moi, je pense que c'était parfaitement possible de le faire, mais on a senti des réticences parce que certainement des gens qui ont pris des habitudes d'être membres du conseil d'administration et traités en tant que tels au Festival de Cannes ne veulent pas changer ces habitudes pour laisser la place à des femmes. Voilà, c'est tout.
Mais ça va changer ou pas alors ?
Eh bien le problème c'est que le conseil est verrouillé par des membres qui sont nommés par des institutionnels comme le Quai d'Orsay, le ministère de la Culture ou l'Assemblée nationale qui eux, a priori, ne sont pas hostiles à une réforme. Mais il y a aussi des académies, des syndicats et des organismes professionnels qui eux sont parfois plus réticents à changer les règles. Et pour le producteur Marc Missonnier qui siège au conseil, là encore, la marge de manœuvre de la nouvelle présidente est assez limitée.
Là où c'est compliqué pour elle, c'est que les membres qui siègent le sont en titre de leurs deux organisations. Donc c'est pas elle qui choisit les gens ou qui peut dire, ce sont les organisations elles-mêmes qui choisissent leurs représentants pour aller au Festival de Cannes. Mais je sais que le Festival de Cannes est en train de réfléchir à une réforme des statuts pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes présentes autour de la table.
Et on verra ce qui se passera au prochain conseil d'administration qui aura lieu pendant le festival. En tout cas, pour Antoine Pecker, l'observateur du mouvement MeToo, si le festival doit évoluer, cela doit intervenir rapidement.
Cette édition du Festival de Cannes, elle est un moment charnière dans l'industrie du cinéma, avec la prise de parole de ces actrices, de ces acteurs, parce qu'on a le moment où on peut maintenant écouter, entendre, pour reprendre le mot de Judith Godrèche. C'est un moment centrale où la société, où l'industrie du cinéma peut l'entendre. Si elle ferme les portes et elle reste dans cette omerta, là, c'est bien une guerre qui va être déclarée. Et là, ça va être quelque chose d'extrêmement violent.
Ouais, à suivre donc. Maintenant, ce qu'on peut relever, et on va conclure là-dessus d'ailleurs, Philippe, c'est que le mandat d'Iris Knobloch, il n'est pas que de faire avancer la condition féminine.
Et non, si elle fait campagne pour une meilleure représentation des femmes dans le cinéma, le journaliste de La Lettre, Alexandre Berthaud, se dit lui convaincu que l'objectif de son premier mandat, c'est avant tout de renforcer les liens entre le Festival de Cannes et Hollywood.
Le rôle d'une présidente du Festival de Cannes, c'est avant tout un rôle de représentation, un rôle d'affaires publiques. Et c'est clairement le mandat qu'on lui a donné, faire effectivement cette passerelle entre Hollywood et Cannes, redonner une attractivité à Cannes face à la Berlinoise ou à la Mostra de Venise notamment. Très tôt d'ailleurs, après sa nomination, elle a fait la tournée des studios américains à Hollywood pour les convaincre effectivement de revenir à Cannes. Et on le voit dans cette sélection officielle pour l'édition 2024, où on crie déjà à la gloire du retour d'Hollywood à Cannes. Et donc elle peut dire qu'elle remplit cette mission, effectivement, de faire le lien avec Hollywood.
D'où la présence de Francis Ford Coppola, d'Oliver Stone et de George Lucas cette année, les têtes d'affiche du cinéma mondial. Et je vous précise que j'ai proposé à Iris Knobloch de s'exprimer sur ces sujets, mais elle n'a pas donné suite à ma demande.
Peut-être une autre fois. On ajoutera qu'il y aura Demi Moore aussi qui doit venir au festival.
Ah oui.
Avec Meryl Streep d'ailleurs, qui recevra une palme d'honneur à cette occasion. Je rappelle donc que l'ouverture de la 77e édition, c'est mardi prochain et ce sera sur France Inter. Merci Philippe Reltien. Cannes et les femmes, c'est à lire sur franceinter.fr. Et si vous souhaitez podcaster cette émission, vous pouvez également le faire sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Humbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.